présidentielles comme la Ve République, ce n'était pas le cas du tout. Notamment sur la Quatrième République, c'était des gouvernements de coalition et qui ne partaient jamais nécessairement pour 5 ans ou 10 ans d'affilée. Bien au contraire, voyez, non, on connaît ça en Belgique, avec une instabilité politique. Ça veut dire que Emmanuel Macron va devoir encore plus peut-être tenir compte de cet équilibre entre les différentes mouvances de son camp. Je l'avais dit dans un précédent podcast, j'ai l'impression que le gouvernement d'Emmanuel Macron, déjà maintenant, que c'est un peu le gouvernement d'Alexandre De Croo, avec des centristes comme il y a avec le CDNV, avec Bayrou, avec des gens qui viennent de la droite des libéraux comme Darmanin ou Castex ou Bruno Le Maire, et puis des gens qui viennent du PS comme Le Drian ou Véran, et même des écologistes avec Barbara Pompili. Donc on a l'impression qu'il avait déjà un gouvernement où chacun venait avec ses sensibilités bien particulières. Alors moi je suis plus à gauche, moi je suis plus à droite, moi je suis plus centriste. Bon, ben, en Belgique, ça marche vaille que vaille. On peut dire qu'on a quand même un gouvernement, mais l'équilibre à trouver n'est pas toujours facile. Ici, il se retrouve avec un peu le même scénario, alors que c'est un scrutin majoritaire. Ça peut sembler paradoxal.
Mais ils parlent tous français en France.
Oui, ça c'est sûr. Ce qui peut aider, ce qui peut aider.
Johanna, ça ne va pas être facile pour Emmanuel Macron d'ici les législatives, d'ici même les prochains mois. On parlait de troisième tour éventuellement dans la rue. Lui parle de méthodes refondées. On a vraiment senti hier, en tout cas, qu'il est parti dans cette différenciation, ce changement dans la continuité. Ça, c'est pour rompre avec le quinquennat qui vient de se passer. Il veut montrer que ça va changer.
En tout cas, là, tout de suite, je pense qu'il a aussi compris l'entre-deux-tours. Il a quand même eu un petit peu chaud. Les résultats des sondages juste après le premier tour, c'est ce que tu disais. Finalement, on sentait quand même une petite fébrilité, une petite crainte du côté d'Emmanuel Macron. Et après, oui, le troisième tour, l'idée du troisième tour dans la rue ou du troisième tour dans les urnes pour les législatives, c'est cette petite musique qu'on entend depuis le lundi 11 avril. Donc finalement, au lendemain du premier tour, c'était déjà ce qu'on entendait. Pour te donner un exemple, tu parlais tout à l'heure de différentes manifestations qui avaient déjà eu lieu dans toute la France. Moi, je me suis rendue sur la place de la République hier soir. Et c'était assez impressionnant parce qu'en fait, il y avait pas beaucoup. Enfin, donc ils ont dû être. Tous les manifestants ont dû être un peu déplacés à plusieurs reprises. Le premier rendez-vous avait été donné à Châtelet. Quand je suis arrivée à Châtelet, il n'y avait rien du tout. Et puis finalement, en suivant sur les réseaux sociaux, c'était place de la République. Quand on s'est rendu sur la place de la République, finalement, il y avait peut-être 300 jeunes, quelque chose comme ça, en tout cas quelques petites centaines de jeunes qui étaient réunis et un dispositif policier quand même assez impressionnant, faut le dire. Mais en fait, les gens qui étaient là, c'était des jeunes qui nous parlaient du rapport de GIEC, qui nous parlaient d'écologie, qui nous parlaient de leur avenir et qui avaient envie de signifier que ce sera que pour eux, s'ils ont dû voter, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'ils ont dû voter Emmanuel Macron, c'est pas un chèque en blanc et qu'ils ont très peur de leur avenir. Mais ils n'étaient pas tant que ça non plus hier soir.
On a parlé de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Si on se projette, Marc, dans 5 ans, Emmanuel Macron, ce sera fini. Il ne pourra plus être président pour une troisième fois d'affilée. Mais il va laisser derrière lui quoi, un champ de ruines au niveau du paysage politique français avec les extrêmes. C'est un peu ça le problème. Parce que quand on regarde les résultats, on en parlait de l'extrême droite. C'était 17% en 2002. On est monté à 33%. On est maintenant à 41%. Alors oui, Emmanuel Macron est président. Il a gagné. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de cette montée de l'extrême droite ?
Écoutez, il a tué le PS en 2017, il a tué LR en 2022, parce qu'ils ont beau dire qu'ils vont essayer de se relancer, ils croisent les doigts pour sauver en tout cas des postes de députés, parce que sans députés, comme le dit souvent Pierre Mathieu, tourne pas autour du pot, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses, et quand on n'a pas d'argent dans les caisses, on ne peut pas aller chercher des collaborateurs, on ne peut pas attirer des gens, bref, c'est un cercle vicieux. Donc il a tué les deux. Donc c'est toujours marrant qu'on entend Emmanuel Macron dire « Écoutez, je me retrouve face à l'extrémisme de droite et de gauche ». Inévitablement, à partir du moment où il a tué le PS et les Républicains, il ne peut plus avoir que comme adversaire, et on l'a vu ici à la présidentielle, que Jean-Luc Mélenchon ou que Marine Le Pen. Alors, que va-t-il arriver en 2027 ? Déjà, que va-t-il se passer avec la France insoumise ? Alors, Jean-Luc Mélenchon avait laissé sous-entendre que ce serait sa dernière campagne. Le dimanche du premier tour, il a dit, on a dit c'est un discours d'adieu, il s'en va et tout. Puis bon, il rebondit, il dit pourquoi pas Premier ministre. Et si ça tombe, s'il tient encore quelques années, il dira, ben, je me représente en 2027. Enfin, bon, bref. À l'extrême droite, on avait dit, ben, c'est fini, Marine Le Pen, c'est fini. Comme j'ai déjà dit, 8 fois les Le Pen à une élection présidentielle depuis 74. Pas une 9e fois. Bah, quand on entend son discours d'hier, c'est pas la pression de quelqu'un qui tourne la page. Donc ils vont rester là. On peut pas dire qu'ils incarnent non plus le renouveau tous les deux. Hein. Et donc c'est vrai qu'il peut encore avoir une progression, peut-être, possible. Mais comme le frein de mes copains, prudence, on n'en sait rien. Et puis ce qu'il faut regarder, c'est dans le camp de Macron. Qu'est-ce qui va arriver dans le camp de Macron? Normalement, il peut plus se représenter. Il y a pas normalement, il peut plus se représenter en 2027. Alors quid? Alors, ça va aiguiser des ambitions, hein, ça c'est sûr. On parle déjà d'Édouard Philippe. Et puis il y en a certains qui sont là. Peut-être que Darmanin, en se rasant tous les jours, se dit pourquoi pas moi, Bruno Le Maire, puis des gens qui incarnent. Et je pense que tous les gens, si on citait une liste de tous les gens dans la galaxie d'Emmanuel Macron qui se disent en 2027, ça sera pour moi, en tout cas, je vais essayer. Donc c'est vrai, en France, on a l'impression que le lendemain du deuxième tour de la présidentielle, qu'on a déjà une autre obsession. C'est la présidentielle prochaine. Comme si Macron, c'était un épisode qui allait tourner et qu'il fallait déjà se préparer pour 2027. 5 ans politiques, c'est très très long. Quand on voit le quinquennat d'Emmanuel Macron, si on lui avait dit ça, il n'aurait pas cru. La France championne du monde de football, c'était déjà pas sûr du tout. Et puis, il y a eu l'affaire Benalla, puis il y a eu les Gilets jaunes. Ça, il n'avait pas vu venir, il faut quand même bien le dire. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, je pense. Bon, alors on dit aussi ce qui s'est passé, l'incendie à Notre-Dame. Je pense qu'Emmanuel Macron n'aurait jamais dit ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 5 prochaines années? Impossible à dire. Mais à mon avis, il y a beaucoup de gens ce matin, notamment dans le camp Macron, qui doivent se dire où il faut qu'on se prépare pour 2027.
Oui, et Pierre, il faut bien le dire, Emmanuel Macron en 2017, il pense déjà à 2022, mais ici on est en 2022, en 2027 il ne sera plus là, et c'est pas vraiment son style de pousser quelqu'un vers le pouvoir.
Oui, alors d'abord, au bout de 2 ans, probablement, le jeu va commencer à s'organiser autour de la succession d'Emmanuel Macron, ce qui peut d'un côté l'affaiblir en tant que président, ou alors le libérer totalement et faire qu'il va prendre des décisions encore plus disruptives sur le plan politique parce qu'il saura bien que c'est pas lui qui aura les gérer derrière. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va regretter la déliquescence des partis politiques parce que quand par exemple Jacques Chirac après 2002, on savait que 5 ans après il serait plus président, l'UMP devenu les Républicains, il s'était très vite organisé pour permettre ça. Ça a été pareil avec Hollande et le PS. Là, si on n'a plus de partis politiques, on est encore plus dans une logique de personnalisation du pouvoir où ceux qui vont être présidentiables, c'est ce que les enquêtes d'opinion vont donner comme présidentiable. Et là, on est dans ce qu'on appelle en sciences politiques une conjoncture politique fluide. C'est-à-dire qu'on a un nombre quand même assez conséquent de personnes qui s'y verraient bien. Soit parce qu'elles y sont déjà, on en a parlé, Le Pen, Mélenchon, etc. Même si Mélenchon aurait 75 ans, Marine Le Pen, ce serait la 4e fois, donc ça va être compliqué. Même elle est un peu seule dans son camp, mais bon, voilà. Et puis, Édouard Philippe, tous, effectivement, on a beaucoup de gens qui voudraient être sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Hein, c'est clair. Donc, les 5 ans qui vont venir, ça va être aussi, les couteaux vont s'aiguiser, ça peut aussi un petit peu faire exploser la majorité présidentielle, parce que Édouard Philippe, là, d'ores et déjà, s'y verrait bien, et beaucoup de gens le verraient bien là-bas, mais en général, ça se passe mal quand c'est comme ça. Pendant 5 ans, c'est dur, pendant 5 ans d'être en...
C'est long, 5
voilà,
ans.
D'être, voilà, exactement, c'est long 5 ans. Et vraiment, et je trouve que c'est pas très... comment dire, très rassurant fondamentalement. Je pense que, je le redis, mais la déliquescence des partis politiques qui a été voulue par Macron, mais qui est aussi de la faute des partis politiques eux-mêmes, faut pas non plus lui donner un pouvoir démoniaque ou jupitérien qui... Bon, voilà, les partis se sont un peu tirés une balle dans le pied. Donc ça, plus en effet, la dissémination du clivage gauche-droite avec maintenant une espèce de bloc, enfin de tripartition du paysage politique français qui est une espèce de gros bloc central, et puis 2 blocs radicaux qui vont s'imposer, je pense, parce que le PS ou les Républicains vont avoir du mal à continuer à exister un petit peu là. Ils vont être ruinés sur le plan économique, il ne faut pas l'oublier. Ce sont des entreprises aussi commerciales quelque part. Donc le fait d'avoir peu d'élus et peu de voix aux élections qui viennent vont faire qu'elles vont être... C'est des partis qui vont être en très grosse difficulté pour survivre. Donc on est dans un moment un peu particulier de notre vie politique, je pense.
Dans un magasin, et la petite cape de fourrure.
sans argent, ça va être compliqué. Ça veut dire que pour faire émerger une personnalité comme a pu l'être Éric Zemmour, hein, porté aussi par un industriel bien connu ici en France, ça veut dire qu'on risque peut-être d'avoir l'émergence d'hommes politiques, de personnalités politiques. On ne sait pas.
Disons qu'il y aurait des ressources personnelles. Alors ces ressources peuvent être des ressources financières ou des ressources médiatiques. Je ne sais pas, quelqu'un de connu et de populaire qui voudrait à un moment donné transformer sa popularité dans une autre sphère en popularité là, bah, je sais pas, Mbappé par exemple, je sais pas, mais je blague à peine, mais jeune, non mais pour dire qu'effectivement traditionnellement en France, si on accepte le général de Gaulle, c'est plutôt quand même c'est passé par les partis politiques. François Mitterrand a réorganisé le Parti socialiste pour en faire le véhicule de sa présidentialité, et ça a été le cas donc de Gaulle et Macron. Donc ça veut peut-être dire qu'on est à la fin d'un cycle, hein, et peut-être que soit effectivement on va vers un aventurier ou une aventurière qui aurait des ressources personnelles qui pourraient se substituer aux ressources d'un parti politique, sur le modèle de Macron, ou alors la réinvention de partis politiques qui réémergerait, qui apparaîtrait et qui permettrait à un candidat d'émerger. On est dans un moment un peu improbable, je dirais, voilà.
Allez, vous le savez, il y a une tradition dans notre podcast Voix de France, c'est le pronostic. Alors, on a eu les pronostics pour le premier tour, le second tour. Je vous vois me regarder comme ça, vous dites, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien avoir votre avis, votre pronostic, qui sera le président de la France en 2027, Johanna?
Alors d'abord, ça sera peut-être une présidente.
Ah.
Et je vais un petit peu botter en touche après ce que Pierre vient de dire. Avec l'analyse qui vient d'être faite, je me dirais que peut-être que la personnalité qui pourrait gagner la course à l'Élysée d'ici 5 ans, on la connaît peut-être pas encore. Elle est peut-être d'un parti qui n'existe pas encore ou d'un mouvement qui n'existe pas encore, parce qu'effectivement on est dans un moment charnière où le paysage politique a complètement été modifié et où il est balbutiant, enfin, donc il est soit en composition, soit en position d'éclatement, donc je dirais que la personnalité n'existe peut-être pas encore. Voilà, je botte en touche.
Je vois, j'entends. Marc,
ma réponse de
Bah écoutez, moi j'ai une certitude. Si tout va bien, Emmanuel Macron sera au moins président jusque mai 2027. Donc là, il y a une certitude. C'est pas ça que vous vouliez savoir, qui sera président après.
Après 2027.
Je vais pas faire le malin. Je n'en sais rien. Et tous les pronostics. Avant, c'était un peu facile à faire. Parce que quand on voit entre l'épisode de 74 jusqu'à 88 ou 95, bon, il y avait Giscard, c'était Mitterrand, Chirac. Si c'était pas Mitterrand, c'est à droite qui gagne, c'est Chirac. Et si c'est pas, et éventuellement PS, il y a peut-être quelqu'un qui peut venir un peu poser des problèmes à Mitterrand, c'est Rocard. Et puis au fil du temps, bon, Sarkozy et Hollande étaient déjà une demi-surprise, parce que c'est vrai que celui qui était pressenti, c'était Strauss-Kahn, et puis bon, on se souvient des problèmes de Dominique Strauss-Kahn, donc c'est François Hollande qui l'emporte, la primaire de gauche, je dis bien, et qui devient président de la République. Alors, l'élection de 2017, personnellement, j'avais rêvé venir. J'ai toujours cru au départ que c'était Alain Juppé qui allait gagner. Et puis, il y a eu la primaire de droite, et celui qui a gagné, c'est François Fillon. Et c'était sans doute lui qui aurait gagné s'il n'y avait pas eu l'affaire de l'emploi fictif de sa femme, la Penelope Gate, révélée par le Canard. Donc, vous voyez, là, les pronostics ont été déjoués. C'est la première fois, finalement, que le pronostic était complètement déjoué. 3 mois avant, on n'aurait jamais pensé vraiment, officiellement, avec certitude, que Macron pouvait gagner. Alors, cette fois-ci, les sondages ne se sont pas trompés. Il faut quand même dire, depuis des mois, on dit que ça va être Macron-Le Pen au second tour et que Macron allait gagner. C'est ce qui s'est passé. Alors, moi, ici, pour 2027, franchement, je n'en sais rien. Il y a une telle recomposition politique, il y a un tel remue-ménage politique que c'est difficile de prévoir. C'est parfois inquiétant parce que vous vous dites qui peut l'emporter, et si quelqu'un l'emporte avec, en ayant des moyens financiers derrière, un petit comique et qui peut devenir président. Dans le même temps, on a vu quand même qu'ici, les Français avaient fait un choix, entre guillemets, raisonné, raisonnable. Donc en 2027, c'est impossible. Et peut-être que d'ici là, de nouvelles personnalités politiques, au sens politique du terme, vont émerger. Il faut sans doute l'espérer. Pourquoi pas une femme? Évidemment, quand on dit une femme, on pense à Marine Le Pen. Je ne pense pas que ce soit à ça que pensait Johanna Bouquet. Mais, donc voilà, mais il peut se passer plein de choses. Donc soyons positifs quand même pour la démocratie. Ici, même si 41 ou 42% des Français qui ont été votés hier ont voté pour Marine Le Pen et donc pour l'extrême droite, d'abord, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous racistes, homophobes et antisémites. Donc je pense qu'il faut nuancer ça. Et ça ne veut pas dire non plus pour ça qu'en 2027, ça sera encore, on aura une extrême droite qui sera encore plus forte. Donc il faut relativiser tout ça.
Pierre Mathieu ? Pierre, ton pronostic, si tu...
Ils m'ont laissé du temps pour réfléchir. Je pensais Johanna, parce qu'une femme française d'une autre sphère politique, je pense que c'est pas mal. En plus, avec une culture politique à la mode belge, donc une capacité à gérer le bazar en permanence, donc ça chauffe, même à gouverner sans gouvernement.
Financé par Pierre Mathieu.
Financé par la RTBF, oui, absolument. Alors moi, je ne serai pas candidat sans doute, je serai un peu vieux à ce moment-là. Effectivement, c'est horriblement compliqué. Moi, comme je suis toujours un peu pessimiste, il y a quelques semaines, j'ai donné une interview au journal suisse Le Temps, dans lequel je disais que Marine Le Pen, ce ne serait pas 2022, ce serait 2027, puisque au fond, la déliquescence totale du paysage politique, finalement, permet à une seule personnalité de continuer à s'imposer, qui est Marine Le Pen, parce que Mélenchon étant vieux, et voilà, moi, j'ai Marc, vous voyez là le verre à moitié plein de dire il y en a quand même 58,5% qui ont voté contre Le Pen, etc. etc. Moi, je vois qu'on est passé de 5,7 à 10 et quelques, à 13,8 là maintenant pour le Rassemblement National, donc ça progresse. Pour la première fois, quand même, une région, les Hauts-de-France, au deuxième tour, ont voté pour l'extrême droite. Hein, c'est la première fois. Hein. Même la région PACA n'a pas voté, mais les Hauts-de-France ont voté pour Marine Le Pen. Donc je suis sur ce pessimisme-là. Donc ça, c'est le côté pessimiste. Le côté optimiste classique, en disant bon, le paysage politique va se déployer à peu près normalement, il ne va pas y avoir d'incident majeur. On va dire, si l'élection avait lieu la semaine prochaine, ce serait Édouard Philippe qui serait président, probablement. Mais la fameuse conjoncture politique fluide dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'effectivement, depuis Macron, depuis 2016, il faut se dire qu'il peut se passer ce qui s'est passé en Pologne, ce qui s'est passé en Slovénie, ce qui s'est passé en Slovaquie, c'est-à-dire un milliardaire, quelqu'un qui a fait fortune dans une autre sphère, qui arrive, qui s'impose, qui est propre, entre guillemets, parce qu'il ne s'est pas sali dans le jeu politique. Donc c'est possible, mais je vois pas qui, parce que Bolloré est un peu âgé, et puis il est un peu quand même.
Il a des fils.
Il a des enfants, absolument. Non, mais voilà, je sais pas où on va en réalité. Je me demande où on va, mais on y va.
Alors justement, Quentin, il y a aussi une petite tradition ces dernières semaines dans le podcast, c'est que on va aussi vous demander un pronostic, parce que c'est assez facile pour toi de poser des questions. T'as bien de jouer au professeur, évidemment, on a Pierre avec nous, donc ça tombe bien. Et finalement, qu'est-ce que tu retiens aussi de cette campagne ? Parce que tu as tout suivi comme moi, qu'est-ce que tu retiens ? Donc deux questions, n'oublie pas.
Oui. Alors mon pronostic, déjà, si je dois le faire, c'est compliqué, mais bon, comme on est joueur, on va le faire. Je pense effectivement que Marine Le Pen va prendre de plus en plus de place, parce qu'elle a pris de l'assurance, parce qu'elle a élargi sa base. Hein. Elle est à plus de 13 millions maintenant. Je te vois faire la moue, Johanna, mais oui, je pense que ça va pas être facile pour Emmanuel Macron pendant ces prochains mois, ces prochaines années, et donc il va y avoir un report de voix, on en a dit. Il y aura un report de voix vers Marine Le Pen, vers l'extrême droite, vers les déçus de l'acte 2 d'Emmanuel Macron, qui pourraient donc profiter à Marine Le Pen. Ça, on verra. Et sinon, si je dois être un petit peu plus optimiste, et en tout cas regarder, moi j'aime assez bien le profil d'un Gabriel Attal, que je trouve assez compétent, jeune, et poussé peut-être, je l'espère pour lui en tout cas, par Emmanuel Macron, qui n'a pas l'habitude de pousser les gens vers la lumière. Je me dis que ça pourrait peut-être faire, si la France veut un renouveau, un combat, Gabriel Attal avec Jordan Bardella du Rassemblement National, si Marine Le Pen laisse un petit peu, et Adrien Quatennens, voilà, ça ferait un renouveau. Ça, on l'a dit, 5 ans, c'est long, il va encore se passer beaucoup de choses, donc peut-être ce genre de duel-là. Pour répondre à ta question, c'est un peu ta deuxième question sur qu'est-ce que je retiens. Je retiens justement cette poussée de l'extrême droite. Je crois qu'on en a parlé ici, on ne l'a peut-être pas encore assez dit. On connaît ce nationalisme chez nous, la France le connaît de plus en plus, et il faudra être attentif à ça dans les prochains mois.
Oui, c'est révélateur. Le premier podcast qu'on a fait,
exactement,
c'était Marine Le Pen est-elle encore d'extrême droite ? Donc c'était vraiment pour lancer vraiment...
Tu te souviens, le premier podcast qu'on avait fait ensemble, c'était à la suite de son premier meeting à Reims, où elle n'a pas du tout le même discours que lors de son tout dernier meeting. Et ça aussi, c'est révélateur. Ça veut dire qu'elle s'est dit à un moment donné qu'elle était trop à droite par rapport justement à Éric Zemmour, et qu'elle est justement repartie vers le centre. Et ça, c'est intéressant, parce que si on regarde, c'était fin janvier, début février, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, elle était encore fort à droite. Bon, ça veut dire que le naturel, il revient au galop, il n'est peut-être pas si loin non plus. Donc voilà, il faut à la fois être attentif dans les prochains mois.
Putain, c'est vachement bien.
voilà, Quentin, on a eu votre avis, et puis c'est peut-être le moment de conclure.
Malheureusement, malheureusement, c'est vrai. 12e numéro déjà, alors ce sera peut-être pas le dernier. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie qu'on continue ce podcast sur la politique française. N'hésitez pas, on a envie d'avoir vos retours qui sont nombreux. Et on vous remercie. C'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier tous les trois. Merci, Johanna.
Merci Quentin, merci tout le monde, c'était une super chouette aventure jusqu'ici.
Merci Marc.
Merci aussi à vous Quentin.
Merci Pierre-Mathieu.
Merci, avec grand plaisir.
Et merci aussi à Jérémy Boisseau pour la transmission et le montage de notre podcast Voix de France. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt peut-être.